Je m'excuse par avance pour les noms chinois, je ne sais pas prononcer. Donc, je vais vous parler du Lidzi, un écrit qui date d'environ 300 après Jésus-Christ. Il tient son nom du philosophe Lidzi, qui est le plus méconnu des trois maîtres taoïstes. Donc, c'est un mouvement, le taoïsme. Donc, ici, sur les 8 sections du Lidzi, il n'y en a que trois. La première, elle vise à nous réconcilier avec la mort. La deuxième, elle nous dévoile l'arme secrète de la vie. Qui se fondent dans le silence et le non-agir. Et la dernière, elle couvre les enseignements de Yang Zhu, qui était le maître de Lidzi. Donc, je ne vais pas faire mon résumé dans l'ordre chronologique, mais plutôt selon les grandes idées qui, pour moi, sont abordées dans le texte. Donc, pour commencer, je dirais qu'il y a un rapport à la nature très particulier, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, et on sent qu'elle est considérée comme une véritable source de vie et qu'elle est indispensable à la compréhension du monde par l'homme. Qui est d'ailleurs considéré comme un animal comme un autre. Et chaque élément naturel trouve une signification et l'œuvre est empreinte d'une poésie et d'une simplicité assez agréable. Donc ce rapport qu'entretient l'homme avec la nature et son environnement, il est construit autour de l'équilibre des contraires, le yin et le yang, le ciel et la terre, etc. Le ciel, lui, il donne la vie et la protège, tandis que la terre modèle la forme et porte. Et ces ambivalences, elles se retrouvent aussi dans le mouvement, les odeurs, les goûts, les textures, par exemple le dur et le souple, la vie et la mort, etc. Donc pour les taoïstes, pour faire simple, et en fait je ne saurais pas faire compliqué, faites des recherches si vous voulez, pour les taoïstes, en fait, il s'agit de suivre le Dao, qui est la voie, qui est une sorte de chemin spirituel vers un idéal d'apaisement, de vérité, de maîtrise de soi, toujours en harmonie avec la nature. Donc, il y aura trois axes que je vais développer. Donc, le premier, c'est que pour Lidzi, l'homme doit apprendre à se délivrer de la peur de la mort, comme les épicuriens, c'est assez proche. Car celle-ci, donc la mort, fait partie de la vie. Et vivre et mourir, c'est considéré comme un éternel retour. Et ce sont des états provisoires en fait. Et donc en fait, il faut aborder l'idée de mourir avec sérénité et détachement. On redoute la mort alors qu'en fait elle apporte le repos. Et il dit que dans un pari, plus on accorde d'intérêt à l'enjeu, plus on perd. Donc si on se place dans le pari de la vie, donc on parie face à la mort ou alors on parie notre mort, c'est comme on décide, en fait on perd forcément, parce que on va mourir forcément. Et donc en fait, on ne doit pas accorder d'importance à la vie. C'est pour ça qu'il faut la vivre avec détachement. Une autre dimension très importante, c'est qu'on est tous égaux face à la mort. Que l'on soit noble ou humble, en fait, on finira, comme dit Lidzi, en mode de terre. Et à notre mort, l'esprit rejoint le ciel et le corps retourne à la terre, et c'est vrai pour tous les hommes. Et donc en fait, il faut renoncer au pouvoir et à la renommée qui ne sont d'aucune utilité. Et toute la gloire posthume, elle est sans importance parce que d'une part, on ne la vit pas et d'autre part, les gens nous oublient avec le temps. Et donc en fait, lorsqu'on vit, on doit laisser parler nos désirs librement et adoucir cette vie parce que notre seule richesse, c'est un corps épanoui et une vie joyeuse. Et il dit quand même de pas tomber dans l'excès parce que tout excès transforme les vertus en vices et vice-versa. Le deuxième axe important, c'est la toute-puissance qu'attribue Lidzi au vide. Il considère que l'on est défini par un milieu originel, une nature et un destin. Le milieu originel, c'est un milieu à notre naissance. Une nature, il faut le prendre au sens d'un tempérament. Et en fait, tout ça nous échappe. Tout nous échappe. Notre corps, notre destin et notre vie, tout est hors de notre portée. Et en fait, on est simplement emporté par le cours des événements, par le mouvement de la nature. Et cette nature, elle subit un constant changement. Et un changement qui est imperceptible et fluide. Et de là vient le fait qu'en fait, le non-agir, c'est justement suivre ce changement et cette harmonie sans perturber son équilibre. Et on débute notre vie avec une sorte de souffle d'origine qui doit être maintenu pur, ne pas être entravé, forcé ou freiné. Et c'est pourquoi le sage apprend aux hommes à suivre leur propre nature. Et donc pour Lidzi, en fait, le vide, c'est la puissance absolue. Parce qu'il n'a pas de forme, Et du coup, il ne subit pas d'emprise. Et le vide, comme il dit, se moque de l'estime. En fait, tout ce qui a une forme a une fin. Et vu que le vide, lui, ne connaît pas de fin, la puissance que l'on peut en tirer, elle est infinie. Et Lizzi dit, celui qui comprend que ce qui n'a pas de forme ne peut plus se transformer, ne subit plus l'emprise des autres êtres. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, le danger, il vient de soi-même, autrement dit, de notre rapport avec l'extérieur. Et faire le vide, c'est donc se libérer de tout et accepter que tout nous échappe, et se laisser entraîner par ce souffle originel et sa propre nature, et non s'imposer des choses par sa volonté. Donc, je vais lire un extrait que je trouve assez éclairant sur cette puissance du non-agir. Dans le monde, il existe une voie qui mène toujours à la victoire et une qui mène toujours à l'échec. La première s'appelle soumission, l'autre violence. Les violences surpassent tous ceux qui ne sont pas aussi violents qu'eux. Les soumis se laissent surpasser par tout le monde. Celui qui vint plus faible que lui est en danger s'il rencontre un jour son égal. Mais celui qui ne surpasse personne n'est jamais en péril. Les soumis se soumettent avec le monde. Cela signifie qu'ils ne surpassent ni ne dirigent rien, si ce n'est eux-mêmes. Si je l'emporte grâce à ma force, ne devrais-je pas me surpasser face à qui emploie la même force? Si je l'emporte grâce à ma faiblesse, ne suis-je pas infiniment plus puissant? Souplesse et faiblesse appartiennent à la vie, dureté et force appartiennent à la mort. Donc voilà pour le deuxième point. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la dimension politique et sociale de l'ouvrage, parce qu'il l'aborde de façon très intéressante, je trouve, sous des thématiques comme la renommée, l'emprise sur les autres et sur soi-même, la sincérité, l'intériorité. Et il fait le basculement et le lien entre un contrôle strictement personnel de notre vie, de notre corps, de notre conscience et un contrôle généralisé pardon, de tout un peuple. Donc pour Lizzi, la souveraineté ne correspond jamais au bien. Il dit, celui qui s'attache à mettre de l'ordre dans les affaires d'autrui ne peut être assuré d'y réussir, mais sera certain d'y épuiser ses forces. Et celui qui s'attache à prendre soin de sa personne ne perturbe pas forcément l'ordre du monde, mais de toute évidence, vivra en accord avec ses penchants naturels. Et donc on peut comprendre qu'en fait, étendre son influence à plus que soi, c'est se négliger et en plus, c'est imposer aux autres. Et il dit aussi que faire valoir la justice, donc ici c'est pas la justice au sens institutionnel, c'est plus dans son sens premier, la justice comme valeur. Donc faire valoir la justice ne suffit pas pour assurer le bien-être des autres, mais conduit assurément de mettre le vôtre en péril. Donc en somme, récompense et châtiment rendent le peuple mauvais, parce qu'en fait, on leur impose des choses et on force leur nature. En plus de ça, Lizzi dit qu'il faut se détacher de l'attitude imposée par les rites, qui permettent, selon lui, en fait, aux hommes de masquer des esprits médiocres. Ou alors d'empêcher une véritable réflexion, parce qu'en fait, elle permet aux hommes qu'on dit de qualité de se composer une attitude, une forme de pensée, qui ne correspond pas à la sagesse. Et donc le sage estime un homme selon son intelligence et non son apparence, tandis que l'homme ordinaire préfère se rapprocher de ce qui lui ressemble par l'apparence et non par l'intelligence. Et c'est cette dernière attitude que dont Lizzi fait le procès. Une dernière chose, c'est pas central forcément dans le livre, mais je trouve que c'est très très intéressant. Il y a aussi un éloge pardon, de la sincérité que l'on sent pendant tout le texte, explicite ou implicite, mais qui doit structurer pour Lizzi toutes les relations humaines et aussi, voire surtout, les relations de pouvoir entre les hommes. Je pense que c'est intéressant de le noter, surtout en ce moment, dans le contexte actuel des choses, entre ce qu'on nous dit et ce qui est vrai. Enfin bref, bon, c'est pas le sujet, mais bref. Pour terminer, je vais juste vous lire une citation. Celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle ne sait pas. Et je pense qu'elle est très intéressante parce qu'en fait, on peut y intégrer presque toutes les thématiques du texte, la sincérité, la simplicité, le renoncement, la non-action et le vide, refuser la qualité qu'on pourrait donner à l'apparence en dépit de l'intelligence, etc. Donc je vous la répète, c'est celui qui sait ne parle pas et celui qui parle ne sait pas. Donc voilà, en fait, vous pouvez considérer que ma présentation se finit ici parce que c'est déjà assez long comme ça. Voilà, je suis à 10 minutes. Donc si vous voulez vous arrêter là, faites-le, mais je vais rajouter deux remarques personnelles qui font pas forcément de partie de la présentation du livre, mais je trouve intéressant de le dire. Donc en fait, on peut considérer la pensée chinoise, qu'elle soit taoïste, bouddhiste ou même confucianiste, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, on peut les considérer sous leur forme plus contemporaine, celle dont on peut être plus familiarisé, qui peut être vulgarisée, assez superficielle et être considérée comme une sorte de tendance spirituelle sans grand intérêt philosophique et assez pauvre finalement. Assez pauvre, je veux dire, intellectuellement, et en tout cas permettant la relaxation et la méditation, mais pas tellement plus. Et j'étais le premier à penser ça, de placer ça du côté du bien-être personnel plus qu'autre chose. Mais en fait, après ma lecture du livre, en fait, je me suis aperçu qu'elle correspond, cette pensée chinoise, à une véritable philosophie, et qu'elle est très fine, très réfléchie, très pensée, et construite selon une vraie réflexion à caractère vraiment philosophique. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que je pense que ça nous sert, bah, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça nous sert beaucoup dans le contexte actuel de confinement. La faculté de savoir se taire, d'écouter, de faire profil bas, de retarder l'action, de faire le vide, de se vider intérieurement et de se laisser porter par le cours des événements. Et je pense que c'est important à la fois à l'échelle humaine et personnelle, mais aussi par rapport au monde de la politique et de l'économie, et particulièrement la gestion actuelle, qui peut être de notre pays ou d'un pays comme les États-Unis, surtout face à une menace où la force en fait n'est d'aucune utilité. Et ce que dit Lizzie sur la renommée et le pouvoir, le renoncement et la sincérité, je pense que c'est très intéressant, voire édifiant. Voilà.